On enchaîne maintenant avec le thème des préjugés. Nous avons choisi d'aborder ce thème car sous la forme d'une table ronde. Danae, élève en première ES au lycée Descartes de Tours, en sera la régulatrice. Autour de la table ronde, nous accueillerons deux élèves élus au CVL de leur établissement, Sandy et Sandra. Attention à ne pas les confondre. Elles sont toutes les deux en terminale bac pro secrétariat au lycée Mermoz de Bourges. Il y a aussi Madame Fauvin, qui est inspectrice, établissement en vie scolaire, et Madame Domain, qui est infirmière en lycée. Danae, es-tu prête ? C'est à toi.
Bonjour à tous, je suis Danae, membre du CVL du lycée Descartes à Tours. Merci beaucoup de nous écouter en cette fin de matinée. Alors nous allons continuer cette émission autour d'une table ronde pour un débat autour des préjugés. Nous accueillons ce matin Madame Nadette Fauvin, IPREVS, inspectrice pédagogique régionale, établissement et vie scolaire. Bonjour Nadette.
Bonjour à tous.
Alors nous accueillons aussi Madame Isabelle Domain, qui est infirmière au lycée à Saint-Jean-de-Bray. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Isabelle Domain, infirmière au lycée Gaudier-Bresca à Saint-Jean-de-Bray.
Nous accueillons enfin Monsieur Emmanuel Mignon, professeur de lettres classiques. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, pour terminer, nous avons deux élèves avec nous, qui sont deux élèves du lycée professionnel Jean Mermoz à Bourges, Sandy Boileau.
Bonjour.
Et Sandra Delangle.
Bonjour.
Merci à tous de votre présence. Alors avant de commencer à explorer cette question du préjugé dans la vie lycéenne, il serait bon de définir exactement ce qu'est un préjugé. Alors pour cela, je me tourne vers Emmanuel Mignon. Vous êtes professeur de lettres classiques et diplômé en philosophie. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'on appelle un préjugé ?
Eh bien, pour définir ce terme, il me semble utile de partir de l'étymologie. Préjugé signifie littéralement « juger avant ». Émettre un préjugé consiste en effet à affirmer quelque chose sans avoir cherché préalablement la moindre justification, sans avoir examiné la validité de cette affirmation. Autrement dit, avoir un préjugé revient à tenir pour acquis quelque chose de faux ou de douteux. Le préjugé est une forme de paresse de l'intelligence.
Et quel est le mécanisme du préjugé ? Comment fonctionne-t-il ?
Bien, le préjugé porte sur un individu ou sur un groupe d'individus et concerne généralement la moralité de leur comportement. À propos d'un individu, le préjugé consistera à juger d'avance comment il se comportera, d'après ce que l'on estime être son caractère essentiel. Un tel est ainsi, il va donc nécessairement faire ceci ou cela. Concernant un groupe, le préjugé consistera à attribuer une caractéristique notée chez quelques membres de ce groupe et de l'étendre à l'ensemble du groupe. Il s'agit alors d'une généralisation abusive. Et ce type de faute logique, voire d'absence de raisonnement, peut provoquer l'exclusion et la haine. Et c'est là tout l'enjeu d'une réflexion sur le préjugé.
Merci pour cet éclaircissement. Alors, je vais m'adresser maintenant à Madame Domain. Vous êtes donc au premier plan pour assister à des situations de souffrance de ces élèves victimes de préjugés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces situations ?
Ce qu'on constate souvent, c'est qu'on va rejeter d'abord la différence. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'apparence physique. Un élève, dû à son poids, alors soit il est trop maigre, soit il est en surpoids. Quelqu'un, par sa taille aussi, trop petit ou trop grand, la couleur ou le type de cheveux. On va retrouver aussi des différences qu'on va rejeter par rapport à l'identité de la personne, son genre. Par exemple, on va trouver qu'une fille, elle est jugée trop masculine ou un garçon qui va être jugé trop efféminé. On peut retrouver aussi un rejet de la différence aussi par rapport au handicap. Alors ça peut être le handicap physique, le handicap mental. Quelqu'un qui a des difficultés à parler aussi, on va se moquer régulièrement de lui. Et puis on va retrouver aussi des jeunes qui appartiennent peut-être à une minorité sociale ou culturelle. Donc ils sont habillés de façon différente, comme s'il y a des codes dans l'habillement. Et là, ils vont être la cible de préjugés. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Alors je me tourne à présent vers Sandy Boileau, qui est membre du CVL au lycée Mermoz de Bourges. Alors vous êtes en terminale pro secrétariat. Et vous m'avez dit que vous avez subi vous-même des préjugés sur votre poids, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ce que vous avez vécu ?
Donc, j'ai eu beaucoup de remarques et d'insultes sur mon physique parce que j'étais forte. Je l'ai mal vécu, donc j'ai baissé les bras en cours. Je suis devenue un élément perturbateur pour montrer que j'étais, entre guillemets, autre chose qu'une fille grosse. J'ai perdu confiance en moi, donc je respectais pas tous les régimes que j'essayais de faire. Arrivé au lycée, les insultes ont continué et m'ont encore plus blessée. Je me comparais constamment aux autres J'ai voulu perdre du poids, donc j'ai fini par en perdre 20. J'ai fait des choses que maintenant je regrette, comme prendre des cachets pour maigrir, me faire vomir, ne plus manger. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a redonné confiance en moi. Je suis devenue plus féminine et je m'accepte comme je suis, je le vis bien.
D'accord, donc c'est finalement une histoire qui se finit bien. Alors, quant à vous, Sandra Delang, vous êtes vice-présidente du CVL et une amie de Sandy.
Oui.
Alors, vous êtes témoin extérieur de ces préjugés, mais comment avez-vous vu, vous, de l'extérieur, comment elle vivait cette situation ?
Eh bien, ça a commencé en cours. C'était une élève qui n'était plus présente, qui faisait énormément de malaise. On avait beau essayer de la raisonner ou autre, mais généralement, ces personnes-là ont tellement été blessées qu'elles sont vraiment entêtées sur ce qu'elles veulent faire, dont se faire vomir ou autre.
D'accord, mais on voit que ça peut être touché particulièrement le poids, et on sait que ça peut aller très loin. Est-ce que ça peut aller... Alors là, je m'adresse plutôt à la nonne demain qui est infirmière. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'anorexie, jusqu'à la boulimie ou des maladies graves comme ça ?
On peut le retrouver, oui. Déjà, on voit que la personne, elle va perdre confiance en soi. Elle a une image de une mauvaise estime de soi, donc elle va devenir fragile. Il y a une forme de dépression qui va s'installer. Donc, une souffrance physique, psychologique. Et on peut arriver à des ruptures scolaires, tout à fait.
Moi-même, j'ai pu assister à des préjugés, notamment sur des élèves qui réussissent très bien en classe ou qui ont des passions un petit peu différentes des autres élèves, par exemple la musique classique, ou des élèves qui sont un petit peu différents et qui sont tout de suite catalogués comme des intellos et donc considérés comme infréquentables. Alors, pensez-vous que la différence entraîne nécessairement une exclusion du groupe, Sandy ?
Ouais, je pense que, pour moi, je trouve qu'être différent, c'est pas forcément... C'est pas une excuse pour être justement rejeté du groupe, mais plus s'y intéresser justement et découvrir plus de choses.
D'accord. Sandra ?
La même chose que Sandy, faut pas s'arrêter au physique ou autre. Il faut, au contraire, oui, faut passer au-dessus et s'intéresser un peu plus à la personne.
Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais m'adresser à Monsieur Mignon. Alors en tant qu'enseignant, est-ce que vous pensez que ces situations ont une influence sur la réussite des élèves ?
Très clairement, les élèves sont exclus à partir du moment où ils sont victimes de préjugés. Et c'est d'autant plus ennuyeux que, à l'âge où quand on se trouve au collège ou au lycée, on a besoin de se reconnaître dans un groupe et d'appartenir à ce groupe. Et à partir du moment où l'élève subit les préjugés, il en est exclu. Et son moral, on l'a vu dans les témoignages, là, est tout de suite atteint, et parfois très profondément. Ça peut aller jusqu'à la dépression. On a des élèves qui se referment sur eux-mêmes. Et forcément, ça a un impact sur l'investissement dans le travail. Et ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que des élèves qui ont des facilités, qui ont une culture, qui aiment l'école, eh bien vont parfois se sentir obligés de se mettre dans l'échec pour intégrer le groupe, pour respecter justement ce poids du préjugé. Et ça, c'est absolument catastrophique, puisque finalement, ce qui est leur qualité est perçu par les autres comme un défaut et on leur renvoie comme tel. Et on se retrouve avec des enfants ou des adolescents qui restent cantonnés dans leur coin, qui se renferment, qui ne participent plus en classe. Et ça a aussi des répercussions à la maison. Ils ne veulent plus venir à l'école. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle on est très attentif en tant qu'enseignant, en tant que prof principal, parce que ça peut avoir des conséquences, surtout à l'adolescence, particulièrement graves.
Est-ce qu'il arrive qu'au contraire, certains élèves, plutôt que de se laisser happer par tout ce système de préjugés et par l'exclusion sociale, est-ce que ces élèves ne préfèrent pas parfois se concentrer sur leurs études et, s'ils y réussissent, justement, privilégier ce côté-là de leur scolarité ?
Alors, bien sûr, il y a des élèves qui ont une personnalité qui leur permet de lutter contre ça, mais c'est déjà difficile pour un adulte qui est construit de lutter contre les préjugés que les autres leur renvoient en permanence. Alors sur une personnalité en construction à l'adolescence, c'est très très difficile. Il y a des élèves qui s'en sortent, bien entendu, et heureusement, mais c'est quand même assez rare et ce n'est pas la majorité, et même ceux qui parviennent quand même à maintenir leur travail et à s'investir, etc., on a toujours l'impression que ce sont des élèves qui se referment, et notamment à l'oral.
Au niveau de la classe, plus précisément, est-ce que les préjugés altèrent le climat scolaire ?
Assurément, parce que On l'a vu, en fait, le préjugé consiste à faire des groupes, des clans. Et donc, dans une classe, eh bien, il y a souvent, ce que vous disiez tout à l'heure, les intellos d'un côté et ceux qui les méprisent. D'ailleurs, c'est assez ambigu parce que ceux qui méprisent les intellos, entre guillemets, les jalousent également. Donc, ce qui fait qu'on a des dissensions dans la classe liées à ça. Et puis, ces tensions sont aussi générées par le suivisme, parce qu'on a souvent certains élèves harceleurs. Hein, on a des profils dans une classe de harceleurs. C'est un élève, deux élèves, et aussi des profils de harcelés. Et il y a toute une catégorie d'élèves dans la classe qui suivent, et qui suivent les harceleurs, parce qu'ils donnent l'image de dominants. Et on assiste après, dans la classe, à cause de ces clans, à des brimades, et ça peut véritablement aller jusqu'au harcèlement au sein de l'établissement et en dehors. Donc, bien entendu, le préjugé a un impact très important sur l'ambiance de classe.
Merci. Alors, Madame Demain, Monsieur Mignon vient de me parler de harceleurs, de brimades. Est-ce que ces victimes de discrimination, d'exclusion, peuvent aussi être victimes de harcèlement ?
Tout à fait. De toute façon, on se rend compte que le harceleur, aussi bien du côté du harceleur et de la victime, ils ont un peu le même profil. Ils veulent masquer une image de soi qui est fragile. Et le harceleur, il va s'imposer par la force ou par forme de vantardise. Il cherche un peu la caution des camarades. Et ce qu'il faut, il faut aussi mobiliser un peu les spectateurs. Parce que les spectateurs, ils assistent à ce phénomène de harcèlement. Et s'ils ne disent rien, ils cautionnent le harcèlement. Il faut savoir que le harceleur et la victime, souvent, ils ont été camarades autrefois. Et les spectateurs, ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas devenir une victime. Donc ça les arrange aussi de ne pas être le harcelé. Et il faut casser rapidement ce phénomène de harcèlement au sein d'une classe. Et il faut intervenir assez rapidement par le dialogue, la connaissance, le respect et mobiliser un petit peu le respect de soi, l'ignorance, la différence, des notions qu'il faut insister. On peut utiliser une heure de vie de classe et puis ouvrir le dialogue avec le professeur principal, avec un personnel de vie scolaire, le CPE par exemple. Et puis ça peut être l'assistante sociale, ça peut être aussi également l'infirmière. Et puis on explique un petit peu tous ces phénomènes et on essaie de discuter de toutes ces valeurs qu'il faut accepter.
Donc merci pour ces pistes de réflexion. Alors je me tourne à présent vers Madame Fauvin. Vous êtes inspectrice au niveau de l'Académie. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les initiatives prises au niveau de l'Académie pour lutter contre ces phénomènes ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais redire que l'exemple de Sandra est révélateur. Et avant de parler du harcèlement, je crois qu'il y a un mot important, c'est d'abord la prévention. Puisque Sandra, si on avait vu prévenir ce phénomène, elle n'aurait pas été dans une situation à un moment donné douloureuse pour elle et pour sa réussite scolaire. Donc la prévention, pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Mignon, je pense que ça passe avant tout par des gestes simples. Les petits reportages des élèves sont tout à fait significatifs à ce propos, et que au sein d'un établissement, en termes de prévention, on puisse faire que les élèves tous ensemble, et les élèves et les adultes, aient des occasions de se connaître autrement. Parce qu'en fait, l'ignorance, la différence, si on met en place dans les établissements des activités autour de petits projets communs, il ne s'agit pas de partir de projets immenses, mais de petits projets communs où on se répartit les tâches, où on est obligé, à cause de la production du projet, de produire collectivement, on est obligé de s'entraider et donc de faire preuve de solidarité. Donc, l'Académie met en œuvre un certain nombre d'initiatives pour prévenir, donc je réinsiste, pour prévenir et ensuite traiter. Dans la prévention, il y a un outil institutionnel installé dans les établissements qui s'appelle le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Il y a donc un CESC académique qui est chargé d'accompagner les CESC d'établissements. Il y a un certain nombre d'impulsions pour relayer la campagne ministérielle sur le harcèlement à l'école, puisqu'on a terminé les propos de l'infirmière scolaire sur le harcèlement. Nous avons plusieurs canaux de transmission et nommé un référent harcèlement à l'école, donc qui est le proviseur vie scolaire du rectorat. Ensuite, nous relayons dans les établissements également toute la batterie d'outils fort intéressants développés par le ministère, par l'intermédiaire du site académique, mais aussi par l'intermédiaire de certains sites, comme le site des conseillers principaux d'éducation, dans lequel nous avons proposé aux établissements une aide, un accompagnement, et également de recenser toutes les bonnes expériences dans l'académie pour ensuite les rediffuser et mutualiser les compétences.
D'accord. Et vous, donc, ça, c'est au niveau de la prévention. Et est-ce que vous avez aussi des pistes pour le traitement de ces élèves en difficulté ?
Alors, le traitement, il est d'abord d'une vigilance de tous les instants, et M. Mion l'a rappelé, ça passe par l'observation des camarades et l'observation des adultes de l'établissement face à un mal-être d'un élève. Tout acteur d'un établissement, y compris d'ailleurs les parents qui sont partenaires de l'éducation et de la formation de leur enfant, peuvent signaler dans l'établissement. Il y a au sein de chaque établissement installé une commission de suivi élève. Cette commission est constituée de la direction, du conseiller principal d'éducation, de professionnels comme médecin scolaire, infirmière scolaire, assistante sociale, conseillère d'orientation, psychologue. Ils sont formés pour analyser sur la base de faits et sur aussi la base des recueils, des entretiens qu'ils ont effectués avec les élèves. Donc ils sont en capacité de détecter l'origine des problèmes et de proposer, avec l'adhésion de l'élève et de ses parents, des solutions adaptées, tout en jouant aussi sur l'aspect collectif, c'est-à-dire aider un élève individuellement. Ça suppose des relais professionnels qu'on a dans l'éducation nationale, mais ça suppose aussi de préparer les élèves de la classe et de conduire avec eux un travail pour qu'ils aident également l'élève.
Donc merci pour ces informations. Alors maintenant, on va revenir sur le thème des préjugés plus particulièrement. On va commencer par les préjugés des élèves envers les professeurs. Alors est-ce que, Sandy, est-ce que vous souhaitez intervenir ? Est-ce que vous pensez que certains élèves peuvent avoir des préjugés sur leurs professeurs ? Des rumeurs qui passent ?
Je pense que oui. Après, ça dépend, comme vous dites, les rumeurs qui passent. Mais après, c'est plus ce qui concerne le physique ou sa vie personnel, on va dire.
D'accord, donc ça vous est déjà arrivé de savoir, enfin d'avoir des informations sur un professeur, sur ce qu'il allait faire, Sandra ?
Oui, dans un lycée, enfin, pas tout le temps, mais les élèves savent beaucoup de choses sur les enseignants. Donc après, oui, il peut y avoir beaucoup de préjugés vis-à-vis des enseignants.
Alors retournons maintenant à la question. Monsieur Mion, vous êtes enseignant, est-ce que vous pensez que les professeurs, eux aussi, peuvent avoir des préjugés envers leurs élèves ?
Bien entendu, on n'est pas à l'abri des préjugés. Qui n'a jamais entendu dans un établissement scolaire à la rentrée, j'étais l'élève, j'ai eu le frère ou la sœur il y a quelques années, c'était épouvantable. Donc on a un préjugé, puisqu'on va accueillir déjà ce nouvel élève avec un certain nombre de présomptions sur son comportement futur, etc. Donc on doit être très attentif à ça. On doit être aussi attentif au milieu social, parce qu'il ne faut pas être dupe. Souvent, on peut avoir, je l'ai dit dans mon propos liminaire, une paresse de l'esprit, et dire, tel enfant vient de tel milieu, ça va être épouvantable, les parents ne vont pas le suivre, enfin voilà. Donc on doit être extrêmement, extrêmement attentif à ça. Il faut toujours que l'enseignant maîtrise son rapport à l'élève et à la classe, et qu'il ait une pratique réflexive aussi sur sa pratique et sur ce rapport qu'il a aux élèves. On ne doit pas se laisser entraîner, parfois, quand on est un petit peu fatigué dans la salle des profs, en disant « bah oui, c'est pas étonnant, vu comme sont les parents, vu comme était le frère ». Voilà, alors ça, c'est un propos de salle des profs, parfois, qui peut émerger. On peut en parler entre nous, bien sûr, mais ça doit en rester là, ça soulage. Mais en tout cas, quand on est face aux élèves, on ne doit absolument pas être dans cette posture-là. Parce que c'est dramatique, on le cantonne dans un rôle, et ça, c'est contre-productif au possible. Il faut au contraire essayer, autant que possible, d'être objectif, quand on l'aborde.
Alors, Madame Fauvin, vous êtes inspectrice. Est-ce que vous avez déjà entendu des professeurs avoir des propos sur un ou plusieurs élèves de sa classe en le jugeant sur certains critères, que ce soit le milieu social ou ses capacités intellectuelles et scolaires? Est-ce que vous avez des situations à nous rapporter?
Oui, quand je rencontre les professeurs, c'est plutôt un désarroi des professeurs devant leur incapacité à faire évoluer l'élève ou à le motiver ou à le remettre dans une situation d'apprentissage. C'est difficile parce qu'on attend pour faire évoluer ses préjugés souvent en premier un signe de l'élève. Et un signe assez fort, et dans un collectif, ça n'est pas simple. Alors, je dirais, moi, qu'un des leviers pour faire tomber ces préjugés à propos de l'élève, alors, on l'a dit, hein, les élèves l'ont dit tout à l'heure dans leurs interviews, soit cet élève a des difficultés pour apprendre, soit il n'a pas des conditions à la maison pour bien apprendre, etc. Je crois que c'est le regard et le travail d'équipe qui peut faire évoluer les préjugés qu'un professeur peut avoir face à un élève. Parce qu'on croise les regards et on voit à ce moment-là, les différents acteurs vont voir l'élève dans différentes situations et ensuite vont pouvoir mettre en exergue ses points forts pour s'appuyer dessus en classe, pour le faire évoluer.
Sandra et Sandy, vous êtes toutes les deux membres du CVL. Est-ce que vous pensez qu'on puisse mettre en place des actions menées par le CVL pour lutter justement contre ces préjugés des profs à l'égard d'élèves?
Non, moi je pense pas. Après, je pense que pour limiter les préjugés et tout ça, c'est aux gens justement de devenir plus matures et de grandir et d'apprendre à connaître les autres et de se dire que bah, c'est des êtres humains comme nous et que voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de prévention là-dessus.
Donc vous pensez que c'est de la faute des élèves eux-mêmes?
Oui.
Oui,
oui, oui, tout à fait. Il faudrait que, comme le dit Sandy, que les élèves ne s'arrêtent pas au physique des autres élèves, mais qu'ils cherchent à connaître les camarades. C'est les élèves qui doivent changer, oui, je pense.
Mais sur la question des professeurs qui auraient des préjugés envers les élèves plus particulièrement?
Honnêtement, après, c'est des professeurs, peut-être qu'ils ont eu des échos ou autre. Honnêtement, je sais pas.
Madame Fauvin, vous souhaitez réagir?
Moi, je voulais dire, par rapport... on peut changer un peu le comportement de certains élèves, surtout quand ils s'attaquent à d'autres. Il faut avant tout favoriser le bien-vivre à l'école. Il y a quand même des voyages qui sont faits, tout ça, il faut mettre ça en avant. Et puis, on organise, Madame Fauvin a expliqué, avec les CESC, les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, on organise beaucoup d'actions au sein des établissements, notamment la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est quand même des journées qui rassemblent un peu tous les élèves. Et en favorisant le don de soi, le bien-être et le bien-vivre à l'école, on peut atténuer un peu ces attitudes de rejet de l'eau, de non-respect de la différence. C'est surtout sur ce climat scolaire qu'on doit travailler.
Monsieur Mignon, une remarque?
Oui, pour revenir sur les préjugés que les enseignants pourraient avoir sur certains élèves, je crois qu'il faut aussi que l'enseignant décentre un peu son regard. Et tout à l'heure, Madame Fauvin en parlait, quand on fait certains projets, notamment des voyages pédagogiques, on peut voir les élèves tout autrement et avoir d'excellentes surprises et voir leurs qualités. Et je crois qu'aussi, il faut se décentrer, c'est-à-dire ne pas rester dans la position du maître qui toise sa classe. Je pense qu'à un moment aussi, il faut essayer de passer un petit peu de l'autre côté, essayer de les connaître autrement.
D'accord. Alors, Madame Fauvin?
Oui, donc ce pessimisme que j'ai entendu de la part de nos deux élus CAVL me heurte quelque part parce que j'ai vu dans beaucoup d'établissements, puisque je sillonne l'académie et mon titre inspecteur établissement et vie scolaire fait que je suis des établissements et je les vois évoluer. Et vraiment, là on est sur la question de la relation professeur-élève, on voit des relations complètement changées. Alors quels sont les leviers de ces changements? C'est effectivement de trouver des occasions pour que les adultes et les élèves travaillent ensemble dans un autre relationnel que celui du professeur dans sa classe. Mais avec une posture qui reste une posture d'accompagnement pour l'enseignant. Donc il ne s'agit pas de monter des projets, par exemple, ambitieux, qui pourraient prendre beaucoup de temps et qui pourraient se faire aussi au détriment des cours qui sont dus aux élèves. Mais prenons des petits projets communs, comme l'alimentation, par exemple, d'un site d'un blog ou d'une partie d'une page de site d'un établissement qui serait accompagné par un professeur. Organiser une exposition avec des groupes d'élèves très différents, accompagnés par un professeur. L'AMDL, qui peut aussi solliciter des professeurs pour modifier cette relation. Puis enfin, on a quand même le CAVL, où le CAVL, c'est le comité académique qui constitue à parité d'adultes et d'élèves. Et par la co-construction d'un projet commun, qui mobilise autant les adultes que les élèves, ça a une efficacité et ça permet de modifier ses préjugés.
Alors sur ce mot, je vais clore le débat. Merci à tous pour cette table ronde qui aura éclairé nos auditeurs sur la place des préjugés dans la vie lycéenne aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Jérémy pour la suite de l'émission.